Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode d'Au Café Avec. Après pas mal de hockeyeurs et d'autres sports, on passe au foot avec Sébastien Bichard, l'entraîneur assistant du Red Star. Passé par un peu tout ce qui se fait en Romandie, le franco-suisse a pas mal bourlingué, notamment via le Kosovo et même un peu de Brésil. L'occasion de le découvrir en prenant un petit café avec lui. Bonne écoute. Salut Sébastien Bichard, déjà comment ça va? Gros début de saison, ça doit être sympa à vivre des séries comme ça.
Oui, ça va très bien. C'est clair que c'est un beau début de saison qui sont assez rares quand même dans une carrière, donc il faut en profiter un petit peu, même si dans notre métier, dans le quotidien, on ne peut pas forcément en profiter parce qu'on est toujours à la recherche du meilleur équilibre et de ce qui va nous faire continuer à appréhender la série et surtout optimiser match après match et gagner le match suivant. Donc on se projette déjà dans 2 jours à Nancy. Donc voilà, pour l'instant on est, on va dire, dans le feu et pourvu que ça dure.
On a l'impression en Suisse romande d'avoir à peu près toujours entendu ton nom dans le foot, mais en fait, on a de la peine un peu à mettre un visage parce que tu as eu entraîné Nyon, tu as eu entraîné des juniors, tu as été assistant. Comment tu te définirais en tant que technicien?
Oh, c'est une bonne question et bonne remarque. Moi, j'ai décidé de me former à ce métier d'entraîneur, malgré que ça soit une vocation, parce que je considère que c'est une vocation, vouloir transmettre, partager, avoir aussi l'humilité, je disais, de se former. Donc, j'ai commencé avec les plus jeunes. Et en passant mes diplômes et les circonstances ont fait que je me suis retrouvé rapidement à 30 ans à la tête du Stade Lyonnais, dans une situation qui était un peu différente de celle de maintenant, en tout cas au niveau extrasportif. Sans forcément calculer, et puis toujours en continuant à me former, en passant mes diplômes avec l'ASF. Et voilà, l'opportunité de rejoindre Lausanne et aussi de collaborer avec Fabio Celestini déjà à Lausanne à l'époque, dans un rôle un peu hybride, puisque j'avais pas une officialisation de poste avec lui, mais on était tous les jours sur le terrain ensemble et en même temps entraîneur des moins de 18 à l'époque. Et voilà, l'opportunité du FC Sion. Finaliser aussi la licence pro UEFA, enfin ouais, ça, les opportunités. Et si on nous donne ces opportunités de vivre des choses différentes, moi à l'époque avec les moins de 21 en Promotion League, qui était pour moi un une très bonne continuité dans ma progression en tant qu'entraîneur numéro 1. Et puis après, les possibilités de jouer un petit peu, je dirais, de temps en temps le pompier, mais surtout d'être un employé du club. Parce que quand on est dans ce métier, faut surtout pas qu'on oublie que voilà, le club est au-dessus de nous, que les situations sont des fois au-dessus de ce que nous on représente. Donc on se doit d'être capable de répondre à des demandes. Après, j'ai essayé toujours de le faire de manière intelligente, également en me protégeant parce que je pense que voilà, il faut faire les choses qui ont aussi du sens. Alors aux yeux des gens et de l'extérieur, des fois ça n'a pas de sens, mais quand on est dans le feu, ça en a. Et ben voilà, j'ai essayé en tout cas de toujours relever les manches, de faire ce qu'on me. Je dirais ce qu'on me demandait, mais surtout de ce qui me semblait pour moi le plus honnête. Et puis voilà, et après le FC Sion, il y a eu l'expérience avec Bernard Chaland et Alain Giresse avec le Kosovo. Et là, ça m'a donné un bagage supplémentaire du très haut niveau, de côtoyer une équipe nationale européenne, des joueurs qui jouent aujourd'hui dans des grands championnats. L'expérience de vivre une qualif de Coupe du Monde avec un groupe, l'Espagne, la Suède, les Zlatan, les Busquets, les Luis Enrique, enfin tout ce qui peut donner l'envie de continuer d'apprendre, d'avancer aux côtés d'un coach de renom, d'un coach qui a une grande expérience et je répète mon point de départ en toute humilité, c'était de continuer d'évoluer, d'apprendre. Et c'est vrai, quand on se met dans ces missions-là, on est toujours un petit peu dans l'ombre. Mais ce n'est pas ce que je recherche véritablement dans mon métier. Je pense que la lumière, elle viendra et elle doit venir avec les opportunités et le bon travail que je dois fournir. Donc aujourd'hui, je suis peut-être à la recherche de ça, de cette, je dirais, reconnaissance à quelque part, mais de plutôt du côté extérieur, du côté, on va dire, médiatique, si je peux me permettre, parce qu'il fait partie intégrante de notre travail. Mais après, quand on est dans le feu et dans le travail, ben voilà, je suis au même niveau que les autres, et voire plus si je me donne les moyens. Donc c'est ce que je veux aussi, comme un joueur, être le meilleur. Donc voilà, et les opportunités après. On est dans un milieu d'opportunités, de réseau, et moi je suis aussi dans un milieu de feeling. Ça veut dire que je considère que je ne préfère pas faire que faire avec une cause qui est mort-née ou on est dans un milieu où ça ne va pas fonctionner, où les gens ne pourront pas cohabiter. Parce que je considère que notre job est très très lié à tout l'environnement, c'est très systémique. Ça veut dire qu'on coopère les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, et travailler avec un staff et un groupe. Donc voilà, ça m'amène aujourd'hui au Restart, mais c'est vraiment la rencontre de gens, et le challenge m'a, je dis un peu vulgairement, excité, hein, mais c'est le cas, je pense qu'il en faut. Et puis ben, l'environnement, le cadre aussi du club qui est très très professionnel. Pour l'instant, j'ai pas forcément connu ce type d'environnement en club, donc je grandis jour après jour. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui.
Tu parles
Donc pour répondre à ta
d'opportunité,
question,
ouais.
parce que j'ai fait un long process, mais
Le
pour répondre
CV.
à ta question, aujourd'hui, ben, je pense que la reconnaissance se gagnera et se gagne, et je dois la gagner à travers des résultats, peut-être plus que certains autres, parce que dans notre métier, il y a différentes personnalités, différents profils. Ben, moi, j'ai, voilà, avec ma culture de travail et mon éducation, décidé de prendre ce chemin-là, de prouver. Donc, des fois, il faut un peu plus, peut-être, de temps, ou en tout cas, un peu plus de lumière, mais je pense que ça vient quand on est sur le bon chemin et qu'on travaille. Voilà.
Tu parles d'opportunité, tu as eu cette opportunité justement à Nyon assez tôt. Est-ce que c'était un peu trop tôt ou est-ce que, parce que c'est, ouais, après tu t'es formé, tu es passé par les jeunes, tu es passé en intérim, tu es passé assistant. Mais il y a vraiment ce saut dans le feu avec Nyon, dans des circonstances pas simples. Ça aussi, ça a dû être formateur.
Oui, complètement. Mais je ne l'avais pas décidé au départ. Parce que moi, j'étais déjà avec les jeunes depuis 3 ans. Donc j'étais dans un process. Voilà, je débutais depuis 3 ans ma carrière d'entraîneur vraiment officielle. Avant, j'étais plutôt assistant, parrain d'une équipe, avec l'école de foot, etc. Puisque j'ai eu la chance de. Et surtout, j'ai voulu faire toutes les catégories d'âge pour me développer. Mais Nyon était une opportunité, comme on en a dans n'importe quel métier aujourd'hui. Et au départ, j'étais pas, voilà, c'était pas le projet que je voulais, parce que c'était pas stable, c'était pas sain, et je me suis dit peut-être qu'il me faut plutôt de la stabilité, quelque chose de plus solide au départ. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'existe pas forcément. Ça veut dire qu'on est, bah, soit une forme de pompier de service, soit on est nommé parce qu'on correspond à certains profils à un moment donné, mais notre métier n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, quand je suis arrivé à Nyon, j'ai demandé aux joueurs de me choisir, en fait, au tout départ, parce que les dirigeants m'avaient nommé entraîneur parce que j'avais le diplôme, et je correspondais un petit peu au profil qu'ils cherchaient. Mais véritablement, dans un petit peu ce marasme à l'époque, ce que je voulais, c'était que les joueurs le valident. Donc j'ai fait 2, 3 jours avec les joueurs, et c'est eux qui ont validé ma venue. Et après, ben, j'ai vécu une année et demie très très riche, parce que je pense qu'on s'enrichit encore plus dans la difficulté. Et voilà. Et après Nyon, ben, j'aurais très bien pu rester à Nyon, où le président Sir Mackès arrivait à l'époque. Mais l'opportunité de rejoindre un club professionnel comme Lausanne, et une académie, et Marc Ottiguer, et tout ce qu'il y a derrière, m'a orienté plutôt dans ce profil-là. Et ça correspondait aussi à ce que je recherchais à l'époque. Donc voilà.
On parle de formation, ensuite bah, tu es passé par le FC Sion, et là on peut dire que c'est aussi formateur fois 1000, parce que c'est pas un club comme les autres.
Oui, totalement, totalement. Déjà, je pense que pour faire ce métier, il faut aussi du courage, il faut aussi de l'abnégation. Et le FC Sion, ça a été une magnifique opportunité. J'y suis même retourné, mais ça a été une magnifique opportunité. Déjà parce que le niveau me plaisait beaucoup, avec les moins de 21 et la Promotion League à l'époque. Donc, vraiment un travail avec beaucoup, beaucoup de plaisir, d'engagement, dans un club spécial. Je devais gérer à l'époque les Kevin Constant, les Alex Song. Voilà, donc ça aussi, ça enrichit ma manière de travailler, avec un président qui aime gagner. Et ça m'a aussi fait du bien, parce que je considère que ce métier, il est fait à haut niveau, en tout cas pour ça. Je crois qu'on se nourrit, de ça. Et à quelque part, ben voilà, c'était de nouveau un process très, très intéressant, très riche, dans un environnement qui est, voilà, qui bouge beaucoup, et qui n'est pas forcément simple, mais comme je le répète, je ne pense pas qu'il y ait des environnements simples dans le football, en fait. Donc voilà, belle,
Ensuite,
magnifique expérience.
tu choisis de nouveau la facilité, tu vas au Kosovo, équipe toute neuve avec beaucoup de choses à monter. Et de nouveau, bah, c'est ce qui va te caractérise pardon, depuis quelques années. Tu es avec des entraîneurs médiatiques, charismatiques. Je pense que tu dois pas mal en apprendre, mais aussi pouvoir bosser dans l'ombre un peu tranquillement, parce que c'est quand même entre Chalande, Giresse et maintenant à Bilbao, c'est des gens qui prennent beaucoup la lumière.
Oui, mais après, ce qui est réjouissant, c'est qu'ils font appel à toi. Donc, ça veut dire aussi que tu as une forme de compétence, en tout cas dans ce qu'ils recherchent. Et ça, c'est le plus important à mes yeux. Et ensuite, après, c'est la posture qu'on emploie. Je pense qu'aujourd'hui, de gagner la confiance de ces gens-là, c'est déjà quelque chose d'important. Ça, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais ça donne du crédit à mon travail. Mais je considère que le travail, je le faisais aussi bien avec d'autres coachs ou moi-même en tant que numéro un, même peut-être mieux parfois, mais c'est ça, ça donne un côté médiatique un peu plus solide. Et puis bah, c'est ce que j'ai besoin parce que bah, voilà, je dirais un nobody, je ne suis pas quelqu'un qui a une carrière internationale et voilà. Et donc on doit passer par d'autres chemins, mais aujourd'hui, ça, c'est la réalité. Genre, donc je suis très conscient de ça. Et puis moi, je le répète, c'est les opportunités, vraiment. Bernard est une opportunité, Alain aussi. Ou Fabio Celestini dernièrement, maintenant Habib, voilà, c'est des opportunités et c'est des rencontres avec des hommes. Et après, ben, on fait un bout de chemin, on s'apporte mutuellement. En toute humilité, ben, je pense que oui, évidemment, je me dois de me nourrir de ces gens-là quand c'est de grosse expérience et ça me fait avancer.
La mode est à l'entraîneur jeune et toi, tu as 40 ans, déjà 12 ans sur le côté du terrain. Comment tu vois aussi pas mal de tes contemporains qui sont déjà entraîneurs de l'Allemagne, qui sont passés par le Bayern on sent qu'il y a maintenant une vraie école, peut-être lancée par Mourinho, hein, je ne sais pas, où tu n'as plus besoin d'être un énorme footballeur. Tu peux te former et tu peux être très capable sans avoir connu le très haut niveau sur le terrain.
Oui, mais c'est encore difficile. C'est encore difficile parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça peut être aussi un frein à un moment donné voilà, à quelque chose. Mais je pense que c'est comme dans tout dans la vie, c'est une question de rencontre aussi. Je pense que c'est les rencontres qu'on va faire, que ce soit en couple, en famille ou avec les amis, dans le football, n'importe quel métier. C'est les rencontres et les gens qui osent te donner les rênes et la confiance. Et pour moi, c'est pas une question d'âge. C'est vraiment une question d'être prêt, préparé. Avoir l'opportunité. Et moi, je considère aujourd'hui que j'attends pas, je me prépare en fait. Donc, au quotidien, je me prépare à que demain, si on fait l'appel à toi pour, pas dire n'importe quelle mission, mais pour une mission précise, tu dois être prêt et préparé surtout. Et donc, moi, j'ai 40 ans et ben voilà, je suis encore vraiment jeune en tant qu'entraîneur, mais le vécu, c'est surtout ça, c'est le vécu qui fait l'homme, qui fait l'entraîneur. Et j'ai mes expériences et je revendique rien. Au contraire, je pense que les choses viendront. Je suis assez confiant là-dessus. En tout cas, je me donne les moyens. Et ça, c'est pour moi le plus important.
Attention, question très bateau. Moi, je te comprends très bien parce que je sais que je mange du football le matin, midi et soir et même des fois un peu la nuit. D'où te vient cette envie de réussir dans le foot, cet amour du jeu de ballon, quitte à ne pas forcément avoir de vie de famille, quitte à mettre certaines choses de la vie normale de côté pour ce foutu ballon, quoi.
Voilà, de nouveau, une bonne question et merci parce que j'aime parler de ça. Bon, moi, le foot n'a rien à voir dans ma famille. Donc déjà, c'est pas, il n'y a personne dans ma famille qui suit le foot. Ma maman m'a vu jouer une fois et est venue la première fois me voir entraîner il y a la semaine passée. Donc ça veut dire que moi, j'ai pas du tout aujourd'hui de famille et je suis pas lié au football par les parents. Ça m'est tombé dessus comme ça, sans savoir pourquoi. Et très tôt, j'avais des prédispositions à être un très très bon joueur. Donc, ce qui m'a permis de quitter le foyer familial à 13 ans, de faire bah voilà, un pôle espoir en France, donc équivalent de l'INF Clairefontaine, mais ils ont ouvert dans les régions. Donc j'ai été un petit peu le novice là-dedans, puisque bah, c'était les nouveaux centres qui ouvraient. Donc je suis parti très tôt de la maison, j'ai fait un centre de formation, donc j'ai fait ma formation de joueur professionnel. Et en France, c'est vrai que Bah, il y a une vraie, voilà, il y a une vraie formation. Et quand je dis une vraie formation, c'est que le football correspond quand même à un métier, à un débouché. Et quitte à sacrifier les études, la famille, et c'est ce que j'ai fait très tôt, en fait. Donc, je le dis clairement. Et ces sacrifices-là font qu'à un moment donné, ça te forge en tant qu'individu. Et donc, j'ai continué mon parcours d'individu. Et celui de footballeur est très lié. Et après, c'est les opportunités qui m'ont fait arriver en Suisse à l'âge de 20 ans, mais j'aurais pu prendre un autre chemin, j'aurais pu faire une autre carrière, et ça, c'est la vie. Mais aujourd'hui, la seule chose qui me tient du foot, c'est qu'il m'a éduqué. C'est que j'ai été éduqué par des entraîneurs qui étaient des éducateurs, certains des anciens internationaux, des anciens joueurs, un petit peu à la dure, voire même beaucoup, parce qu'à cette époque-là, et quand je dis il y a une formation de footballeur, c'est que c'est après, il y en a 50 000 qui attendent derrière toi, en gros, quoi. Donc, j'exagère, mais voilà, t'es un numéro. Donc, à la fin, il faut performer au quotidien, et t'es un privilégié très tôt, et on te le fait comprendre. Donc, c'est à nous de très vite, de très vite se battre. Et c'est un peu le mot. Quand t'es dans la chambre, dans un centre de formation, t'es avec ton concurrent. Ça veut dire que ton voisin, ton ami dans la chambre, c'est quelqu'un qui veut la même chose que toi, qui veut ta place, qui veut le contrat, qui veut aller s'entraîner avec les pros, puis après qui veut aller jouer avec les pros. Et voilà, et cette bataille-là, on l'a au quotidien. On l'a matin, midi et soir, du petit déjeuner au coucher. Donc, vivre dans cet environnement-là, ça forge. Et donc, ça m'a toujours habité. Et moi, je suis un énorme passionné. Ça veut dire que je n'arrive pas à expliquer pourquoi j'aime le foot, mais je le vis. Et aujourd'hui, ce que je suis très, très conscient, c'est que je ne pourrais pas vivre sans, en fait. Donc, je ne pourrais pas vivre sans cet environnement-là. Et j'ai fait le choix, c'est que je pense que si je n'ai pas ça, ma vie n'a pas de raison d'être. Et quand je dis de raison d'être, c'est pas, je ne suis pas malade, hein, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui me stimule. C'est ce qui me donne ce plaisir, me donne cette envie de me lever, des fois de me coucher ou pas me coucher. Enfin, c'est voilà, d'aller. Que ce soit d'aller voir un match ou de le vivre aujourd'hui en tant que technicien, et même tous les jours dans le quotidien. Je me tape des journées de fou, mais tout le monde dit, mais t'es fou. Mais non, parce que c'est ce que j'aime. Donc, je suis très, très heureux du matin au soir. Et j'ai pas trop de soucis avec ça. Par contre, mon environnement, oui, un peu plus, évidemment. Mais ça, c'est ça les vrais sacrifices, je pense.
Ouais, je ferai écouter ce podcast à ma propre copine qui me prend pour un ovni des fois, tu sais, elle est tellement dans le foot. Et
Je
puis, bah,
comprends.
non, c'est vraiment le sport numéro un, c'est pas pour rien.
Non, et puis il y a beaucoup, alors, des gens en dehors du foot, mais beaucoup de grands musiciens ou de grands auteurs ou de grands artistes qui disent que la passion est destructrice. Et je considère aujourd'hui que ma passion peut l'être, mais peut l'être comme quand je vais me retrouver des fois sans avoir ce foot-là, cette drogue, entre guillemets. Et oui, ça me détruit parce que je me sens pas utile, parce que je m'ennuie, tout simplement. Et c'est un job où on est là pour les autres, on est là avec les autres. Et je pense, au même titre que toi, on se construit socialement aussi avec ce métier-là. Ça veut dire que notre environnement, notre réseau est très lié. Alors, j'ai aussi appris à essayer de sortir de ça pour aussi socialement découvrir. Voilà, je prends l'exemple, j'ai des voisins qui sont vietnamiens, brésiliens, etc., argentins, et donc en dehors du foot. Et c'est vrai que de temps en temps, parler d'autres choses ou d'aller vivre d'autres cultures, c'est intéressant. Et c'est vrai que quand on est dans notre bulle, des fois, on n'en sort pas, et c'est pas toujours bon, mais je suis très conscient de ça. Mais socialement, ça peut aussi nous détruire. Mais ça fait partie de ce que je veux. En tout cas, moi, je l'assume et je le vis bien maintenant. Maintenant, voilà, ça, j'imagine comme toi aussi. Maintenant, c'est plutôt notre environnement ou notre entourage qui, des fois, en pâtit, mais voilà, ça fait partie du jeu, comme on dit.
Comment, à 13 ans, ont vécu tes parents, justement, ton départ, eux qui n'étaient pas du tout foot, c'est quand même super violent, c'est super tôt.
Oui, alors bon, moi j'ai pas de j'ai mon papa qui est parti très tôt, donc de famille séparée, papa qui a abandonné ses enfants. Donc, si tu veux, le rôle du papa, donc du père, c'est que ça a été quand même mon entraîneur de foot. Et c'est des gens que j'ai revus il y a une semaine, que j'avais pas revus depuis plus de 20 ans, et je les ai remerciés. Je les ai pas remerciés parce que j'ai pas été un meilleur footballeur, je pense pas. Oui, peut-être. À l'époque, comme ils nous géraient, je pense que c'était pas toujours formateur, je dirais, sur le plan football, parce que c'était des fois, ça nous bridait plutôt. Par contre, c'était très très formateur en tant qu'humain, et ils l'ont toujours fait avec l'envie de nous donner le meilleur. Et c'était représentatif du côté paternel qui pouvait me manquer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je leur dois beaucoup. Des gens comme Dominique Bigotta, un ancien champion olympique, des gens comme Dominique Bougrat, qui est moins connu en tant que joueur, mais qui est un entraîneur en France qui a eu énormément de succès. Et donc, ces gens-là, je leur dois énormément dans mon éducation, vraiment, vraiment. Et j'ai eu de la chance de les croiser. Et voilà, je les ai revus il y a peu de temps, je les ai remerciés parce que je suis très content de ce que je suis devenu en tant que personne et ce qu'ils ont pu m'apporter. Et c'est vrai que c'est très dur, mais surtout pour la famille et encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, on apprend à s'éduquer sans ses parents. Et quand on s'éduque sans ses parents et ses frères et sœurs, puisqu'on rentre des fois même pas pendant les vacances, puisque nous, on a la compétition nationale en France, elle est tout le temps, chez les jeunes aussi. Et donc, ben voilà, on apprend à grandir sans eux. À l'époque, c'était la carte téléphonique, donc il n'y avait pas le visio, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et voilà. Mais donc aujourd'hui, je pense que oui, il y a une certaine distance dans ma famille et peut-être aussi un peu à cause de ça. Mais voilà, mais en tant que personne, j'ai été éduqué de cette manière.
Et il y a ce départ en Suisse aussi. Ben maintenant, t'avais passé presque la moitié de ta vie, et une grande partie de ta vie professionnelle en Suisse. C'était une opportunité. C'est difficile de comparer les deux pays. Tu es bien placé pour le savoir. Moi, mes parents habitent en France depuis 20 ans. On une centaine, 200 kilomètres, c'est des mentalités complètement différentes, et aussi et surtout au niveau du foot, parce que j'ai l'impression que la France n'est peut-être pas un immense pays de sport, mais un grand pays de foot. Tandis que le foot en Suisse, c'est même pas un métier, c'est un éventuel passe-temps pour Segundos. Est-ce que ton déracinement déjà à 20 ans en Suisse, comment ça s'est passé? Et puis aussi, quelles sont les différences entre
Bah écoute,
footballistiques et
ouais.
sportives entre les deux pays?
Bah, la Suisse me. Je suis venu ici et je le revendique encore aujourd'hui partout où je voyage et où je vais travailler aussi. C'est que la Suisse est un pays qui me correspond énormément. De par ses valeurs, en tout cas la Suisse romande, puisque c'est là où j'habite. Et je peux pas me permettre de parler d'ailleurs où j'ai pas habité, même si j'ai habité un petit peu à Zurich aussi une période. Mais ça me correspond beaucoup parce qu'il y a des règles, il y a des valeurs, et ce côté-là me correspond énormément et correspond à l'éducation que j'ai reçue. Et quand je suis arrivé, j'ai été très bien accueilli pour le footballeur que j'étais, mais je pense aussi pour l'homme, parce que je suis encore en contact avec les gens qui m'ont accueilli à l'époque. Et moi, dans ma première mentalité, c'était de m'intégrer. Ça veut dire que c'était à moi de faire l'effort, c'était à moi de passer du temps, avec les gens, c'était à moi de me faire connaître. Et donc, ouais, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis moitié-moitié, mais c'est clair que la Suisse me correspond énormément dans ma personnalité aussi. Et les grandes différences sur le plan du sport, ben, je le dis assez souvent. Il y a dernièrement, avec qui on parlait de Josias, ben, c'est un petit peu ça. Je pense que ça vient aussi déjà de la formation et de ce qu'on voit du sportif, mais pas que dans le foot. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'est pas entouré avec des parents qui sont en capacité de financer aussi à un moment donné, c'est très difficile de faire du sport de haut niveau en Suisse. Malgré ce qu'amènent toutes les fédérations et comment ça se développe, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de sacrifices de la part des familles et il faut, je pense, les valoriser, même si des fois elles sont un peu trop présentes, mais on leur demande aussi énormément. Et le foot en tout cas n'est pas un métier, le sport non plus. Donc c'est aujourd'hui pour moi une grave erreur. Parce que ce qu'il faut considérer, et on le voit dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on travaille plus 30 ans dans la même boîte, en tout cas de moins en moins, si je peux me permettre. Donc on évolue. Et pour moi, faire une carrière de joueur, peu importe ce qu'elle est, qu'elle soit de haut niveau ou de niveau régional, peu importe, ou interrégional, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous intégrer. C'est quelque chose qui va nous aider aussi à trouver du travail et qui peut nous aider après les études à trouver du travail, à trouver des réseaux. Et si on est professionnel, à faire une première carrière, si j'ose dire. Puisqu'après, elle va s'arrêter, on va engager une seconde carrière. Mais cette seconde carrière, elle existe également pour monsieur et madame tout le monde aujourd'hui. Parce que Dieu sait que la reconversion professionnelle devient quelque chose de plus en plus important et encore plus après le Covid. Il y a énormément de choses. Donc, moi, je mets le football égal à la société et ce qu'on vit. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi je dis c'est une grave erreur maintenant, c'est que je considère qu'on peut allier les deux. Et Dieu sait qu'il y a des exemples bien plus puissants que le football pour nous montrer qu'on peut allier les deux. Ceux qui font de la natation, par exemple, qui vont nager à 6 h du matin et ensuite ils vont à l'école et ensuite ils vont faire de la musculation et ensuite ils vont de nouveau nager. Donc nous, on est un autre sport, on a une autre culture. Mais aujourd'hui, on a les écoles, on a les encadrements qui nous permettent ben voilà, de nous construire. Et je dirais de mener le double projet, qu'il soit scolaire et sportif, Ah bien. Et l'un nourrit l'autre. Et c'est là aussi où je me suis toujours battu, parce que moi, ça a été le cas. J'ai arrêté l'école très tôt, à 16 ans. Je faisais des cours par correspondance. J'ai fait un baccalauréat par correspondance. Et aujourd'hui, et je ne l'ai pas eu, parce qu'il me manquait des matières, parce qu'on allait à l'école 1 heure et demie par jour pour dire qu'on allait à l'école. Parce que la formation française, beaucoup l'école le mettent de côté, il faut être honnête. Et on demande à des gamins de 16 ans d'arrêter l'école aujourd'hui, hein, dans la formation française. Il ne faut pas l'oublier. Sauf que ça ne se dit pas, parce que la France est vue comme la plus grande formation, mais je ne suis pas toujours convaincu par certains procédés, en tout cas. Mais le vivier existe. Mais la Suisse, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à mener je dirais, le double projet à bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais enlever. Ça veut dire que la richesse que nous amène l'école et aussi le fait de changer un petit peu notre quotidien, c'est très intéressant. Maintenant, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on le met en défi, on le met en conflit. Ça veut dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Et ça, pour moi, ce n'est pas bon. Je pense qu'on doit nourrir le tout. Quelqu'un qui veut faire du sport de haut niveau, qui s'engage dans un sport élitaire, c'est très éducatif. Et pour moi, ça vaut des fois 1 heure de mathématiques en moins. Ça vaut des fois 1 heure de français en moins. Ça vaut 1 heure de sport en moins. Parce que là, ils vont rencontrer le savoir-vivre, le savoir-faire et se développer aux côtés de camarades. Et pour moi, ça a pas de prix. Donc voilà, c'est pour moi même pas un débat. Je pense qu'il faut continuer et les deux sont importants. Et on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a des. Ben voilà, moi je prends mon cas, mais le cas de tout le monde. Moi j'ai 40 ans, je suis inscrit à l'université. Donc pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je considère que je dois me performer dans mon métier, malgré que j'ai passé le permis de conduire. Donc ça veut dire la licence pro UEFA, je peux entraîner au plus haut niveau, mais je suis inscrit à l'université pour me développer sur d'autres critères de management. Voilà, et ça pour moi, c'est. De nouveau, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge. On doit continuer sa formation toute sa vie. Donc, c'est pour moi une grande bêtise de pallier les deux et de ne pas y croire surtout. Parce que c'est. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas, on ne va pas gagner sa vie avec le sport, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on gagne sa vie avec le sport et si on ne gagne pas sa vie entièrement, ben on en gagne une grande partie. Ou en tout cas, on se bat pour ça et c'est notre passion. Ça nous aide à vivre si j'ose dire, une première vie professionnelle peut-être. Et voilà, il n'y a pas de prix. Et peu importe le sport qu'on fait, hein, c'est. Je pense tous les grands sportifs ou les passionnés le diront. Donc voilà un peu ce que je peux
Et
dire.
le sport fait voyager aussi, ce qui est très formateur. Bah toi, je pense que tu as vu des endroits et
Tout à
des
fait.
états que tu n'aurais jamais pensé voir. J'ai lu que tu étais passé par le Brésil aussi, l'Atlético Paranaense, c'est vrai ça?
Exactement. Oui, c'est vrai. Oui, je devais m'engager au Brésil.
Ouais.
J'ai fait quasiment un mois en immersion dans un club, en plein Covid. Donc, c'était une opportunité à pression d'aller visiter une autre culture foot. Et j'ai fait un mois une forme d'audit. Donc, je présentais certaines choses et de mon parcours, de ce qu'on fait aussi en Suisse. Donc, par exemple, le talent manager, qu'est-ce que représente aujourd'hui la personne qui s'occupe des talents, comment sont formés les jeunes. Donc, à savoir que ces grands clubs, parce que c'est un énorme club et la plupart des grands clubs que j'ai visités sont très, très ouverts à partager et à écouter ce qui se fait ailleurs. En toute humilité, on n'est pas là pour être jugé, on est très bien accueilli. Et c'est là où c'est un peu le conflit que je peux avoir aussi, c'est que quand je vais à Brighton ou que je vais à Atlético Paranense, qui fait la Libertadores, je suis accueilli comme peut-être pas accueilli dans certains endroits de Suisse, quoi. Parce que tout le monde a peur tout le monde. Et là, non, je pense qu'il y a beaucoup de partage. La reconnaissance des compétences, ce n'est pas lié au parcours que tu as eu, c'est lié à qui tu es et comment tu vas véhiculer les choses. Et voilà. Et donc, le Brésil a été une expérience exceptionnelle, mais toutes mes expériences. Aujourd'hui, je suis en Seine-Saint-Denis. On peut imaginer de mon village de Coinçant à la Seine-Saint-Denis ce que ça peut être. Mais je suis venu là aussi pour ça. Parce que socialement, ça me permet de m'ouvrir, de me développer, de sortir de ce qu'on a l'habitude. Alors, j'ai eu le Kosovo, j'ai eu toutes ces expériences, mais pour moi, c'est aussi ça le football. C'est aussi ça le football, c'est clair.
Parle-moi un peu du Red Star, qui est un club, à tous ceux qui aiment le football vrai, j'ai envie de dire, qui un club qui parle, comment c'est au quotidien, même si c'est du national, c'est quand même du très haut niveau, parce que Dieu sait qu'en France, en dizaine de divisions, il y a encore des bons joueurs. Comment c'est au quotidien, quelle est l'ambiance, comment c'est un match à Bauer, quoi.
Bah moi, comme je l'avais déjà dit à certains confrères, quand j'ai passé le portail du centre d'entraînement, j'ai dit que je savais que j'allais travailler ici. Un, ça me correspond. Deux, c'est authentique. Et trois, il y a une vraie histoire. Et aujourd'hui, de pouvoir avoir une histoire qui continue d'être véhiculée et portée, c'est assez puissant. Et je le rends compte au quotidien. également la puissance sociale que représente un club, ben voilà, à Paris, je pense, l'une des plus grandes villes au monde de footballeurs, de footballeurs. C'est impressionnant. Et moi, j'ai trouvé un club très, très professionnel, très bien organisé, sous pavillon américain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est un club qui va racheter Everton, ou qui vient de le racheter il y a pas si longtemps. Ça va être officialisé. Qui a le Genoa, qui a différents clubs, le Standard de Liège, Vasco de Gama, et qui a le Red Star. Et je suis arrivé dans un club où, bah, voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui étaient vraiment mises en place au niveau football. Et aujourd'hui, voilà, moi, je continue à rencontrer des gens. Et moi, je trouve des gens qui sont engagés, amoureux de leur territoire, amoureux de leur club. Et le stade, c'est assez hallucinant. J'ai connu Tourbillon et j'ai connu aussi Lausanne. Bon, la Pontaise, plus la Pontaise que la Tuyère, mais c'était bien sûr une autre ambiance. Tourbillon était voilà, fantastique. Le Valais, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Valais aussi pour ça, pour la passion. Parce que j'aime le foot et j'aime les supporters. Donc moi, je suis quelqu'un aujourd'hui, la grande différence quand on est dans des stades où ça vit, c'est monstrueux. Et Bauer, sa vie, et ça va continuer à vivre, et je dirais pas à revivre, mais à perdurer, puisqu'ils sont après refaire le stade. Et ce qui est important aussi, de se remettre, voilà, un petit peu aux normes et à développer. Donc c'est un stade qui va faire quasiment 10 000-12 000 places dans peu de temps, et là il est en travaux. Mais ce que génère la tribune, où il est situé, dans un quartier populaire entre les bâtiments, et les vendeurs dans les puces, comme on dit, de Saint-Ouen, c'est assez hallucinant. Donc on a des bobos qui sont au stade, et des bobos, des gens, voilà, des Parisiens qui sortent du travail, du bureau, et qui enlèvent la chemise et qui mettent le t-shirt vert, et c'est hallucinant. Et cette ambiance est pour l'instant exceptionnelle, puisqu'on a des bons résultats, donc ça aide.
Tu as beaucoup parlé tu as beaucoup dit le mot opportunité. Donc, toi, tu as l'habitude depuis 20 ans de ne pas savoir où tu seras, peut-être le mois d'après, peut-être l'année d'après. Comment tu vois ton futur? Je sais que ton but final, c'est d'entraîner la Berrichonne de Châteauroux, hein, mais comment tu te projettes simplement?
Tu as dit mon but final est d'entraîner la Berrichonne de Châteauroux? Non, je n'ai pas
Oui.
entendu. Ouais,
Je suis
non,
sûr
non,
que
je
c'est
pense
ça
pas
ton
que mon
but.
but final. Non, non. Peut-être ça fera partie du chemin, on verra. Non, mais mon but final aujourd'hui, moi je suis quelqu'un d'ambitieux, mais d'ambitieux de par le travail, et j'espère de par ma posture, et depuis le temps maintenant qu'on partage, je pense que le message passe dans ce sens-là. En tout cas, je l'espère. C'est aujourd'hui, je suis ambitieux parce que quand on est dans le monde professionnel, je pense que ce qui doit nous animer, c'est ça, c'est cette ambition. Et cette ambition, elle est positive. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas de limite. Donc, j'irai où ça va me mener. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est aussi une chance. Il y a des moments où c'est plus difficile, parce que c'est vrai que de pas savoir où tu vas être demain, ben, naturellement, que c'est quelque chose qui peut faire que tu t'interroges. Mais quand on est pris dans le quotidien, on n'y pense pas. On pense vraiment à, bah voilà, demain matin, le prochain entraînement, le prochain match. Donc on est sur du court terme aujourd'hui. Et bon, je l'ai choisi aussi. Donc faut jamais l'oublier. C'est que je pense qu'on peut choisir aussi ce qu'on veut. Moi, j'aurais pu être ailleurs dans le foot aussi, mais dans quelque chose d'un peu plus peut-être stable, si je peux me permettre, parce que ça existe. Mais je l'ai pas voulu, parce que c'est pas ce qui va m'aider à être le meilleur de moi-même. Donc moi aujourd'hui, je sais pas où je serai, mais ce que j'ai envie, c'est de donner le meilleur de moi-même et d'être le meilleur de moi. Et oui, en numéro un, je l'espère. Et si t'es pas en numéro un, ça sera dans un staff avec qui aujourd'hui, comme on le fait là avec le staff d'Habib Bey, où on collabore, où il n'y a pas forcément je dirais, comment dire, de statut prédéfini, numéro un, numéro deux, etc. C'est pas ça. Nous, on est vraiment dans un rapport systémique d'échange. Chacun a son rôle. Il y a beaucoup d'humilité et beaucoup je dirais, de respect dans ces fonctions-là. Et ça, c'est assez rare dans ce job. Et ça va très bien pour l'instant.
Bon, on est déjà dans les arrêts de jeu de ce podcast parce que bah, forcément, on cause foot, on voit pas le temps qui passe. Il y a une question que j'aime bien poser et je te laisse volontiers quelques secondes pour y penser. Quelle est la question qu'un journaliste ne t'a pas posée mais que tu aurais bien aimé qu'on te pose?
Oh, ça peut arriver. Là, on est en fin de journée, donc il faut que j'arrive à avoir la fraîcheur, d'avoir la bonne question.
Attends, au pire, je le coupe, tu as même 30 secondes si tu veux.
Oui, bon, je vais te faire bateau. C'est quoi pour toi la définition d'un métier d'entraîneur de foot?
Ouais. Mais C'est difficile parce que entre quand tu commences le foot, quand tu continues le foot, j'ai entraîné des tout petits, ensuite tu deviens journaliste. Et je pense que le métier est en perpétuelle évolution et je pense que de l'extérieur, tu peux pas te rendre compte tous les paramètres qu'il faut prendre en compte. Hier, j'étais à la Pontaise et puis il y a tout le monde, tous les gens du public qui viennent. Mais pourquoi il fait pas jouer machin? Pourquoi il fait jouer celui-là? Pourquoi dans le journal tu mets pas que c'est l'immense chèvre qu'il faut faire jouer l'autre? Mais je leur dis, mais tant que t'es pas dans le vestiaire. Alors tu peux juger, hein, c'est comme ça, tous les supporters le font, il y a 70 millions de sélectionneurs en France, mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Il a perdu son chat, il a une petite pointe derrière la cuisse. Je pense qu'on n'arrive pas, tant qu'on l'a pas été, on n'arrive pas à se rendre compte de tout ce que ça englobe. Et je pense que toi, quand tu as commencé à te former, tu as dû découvrir, mais encore maintenant, tu vas découvrir des aspects de ton métier que tu ne pensais pas que ça irait jusque-là, quoi.
C'est justement ce qui est intéressant dans ce job. C'est pour ça que dans la définition de ce métier, je pense que justement, c'est un métier qui est très, très, très ouvert, avec énormément de paramètres. Et pour avoir fait autre chose que du foot, pour avoir travaillé dans des sociétés, par exemple, ce qui est très important, c'est justement d'essayer de le définir le moins possible. Et d'avoir, à quelque part aujourd'hui, pour moi, de définir que tout est recherche. C'est qu'en fait, pour moi, ce métier-là, c'est un métier où on va rechercher. On va rechercher à développer nos joueurs. On va rechercher à donner la meilleure équipe possible sur le terrain, à donner la meilleure stratégie. On va rechercher à gagner le match. Et dans la recherche, on n'a jamais rien. Donc, on a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'interrogations. On doit décider parce qu'il y a un instant T qui arrive et c'est le plus important. C'est l'instant T. C'est celui-ci qui va faire qui peut valider certaines choses. Mais moi, pour moi, je considère que c'est un métier de recherche. Et donc, il est en perpétuelle évolution et il le sera tout le temps. Parce qu'on est attaché à l'humain, on est attaché à la connexion d'humain, ça veut dire aux associations. Donc, et ça, à la coopération. Et ça, c'est très, très, très important d'y penser. Et aujourd'hui, c'est aussi un métier qui peut paraître aux yeux de certains un métier privilégié. Mais parce qu'il y a des attitudes qui sont aussi liées à ça. Et moi, ça me déplaît fortement. Donc, mais ça fait partie de la vie. Il y a des attitudes qui font que, ben voilà, de temps en temps, ça plaît pas aux gens. Et je considère qu'on a un métier vecteur d'émotions. Et les gens qui se font chier quand ils viennent nous voir jouer, ben c'est des gens qui sont plus ouverts à la critique que des gens qui ont pris des plaisirs et de l'émotion. Donc, faut pas l'oublier, c'est que, ben voilà, les gens qui viennent voir un match de football, pour la plupart payent ou sont invités, mais viennent chercher des émotions. Et ces émotions-là, on doit leur en donner. Et en donner, c'est correspondre à des vraies valeurs de ce qu'ils recherchent également. Et je te donne l'exemple, la plupart du temps, en fait, on ne se pose jamais la question, mais qu'est-ce qu'attend le public? Qu'est-ce qu'attend le public de la Pontaise et qu'est-ce qu'attend le public de Zurich? J'ai suivi le FC Zurich longtemps, qu'est-ce qu'attend le public de Bauer? Ben aujourd'hui, s'il y a des mots un peu bateaux, mais dans ce que recherche un public, eh ben on doit être en capacité de lui donner sur le terrain, d'être en capacité de redonner ce qu'il vient nous chercher et aussi nous donner à quelque part. Et ça, c'est dans la culture club, c'est très, très, très important et on l'oublie. Et quand on est dans des stades qui se remplissent de plus en plus, on le comprend très vite. On comprend très vite que c'est important. Et je fais quelque chose, je ne sais pas si c'est bien, mais j'ai toujours pris ça de cette manière-là. Je me suis dit que beaucoup de gens regardaient les gens qui gagnaient. C'est-à-dire que beaucoup s'inspirent de ceux qui gagnent. Ben moi, j'utilise énormément ceux qui ne gagnent pas. Et j'essaie de comprendre pour quelles raisons aujourd'hui l'Olympique Lyonnais ne fonctionne pas. Pour quelle raison aujourd'hui Marseille a des soucis? Pour quelle raison aujourd'hui, je dis une bêtise, mais ça peut être, je ne sais pas moi, Servette FC a eu un passage difficile. Pour quelle raison le FC Sion a dû aller en deuxième division pour repartir sur autre chose? Et pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que c'est un moyen aussi dans la recherche, d'essayer de trouver des choses à ne peut-être pas faire, mais à essayer de minimiser ou de comprendre. Et ça, pour moi, c'est aussi développant. Donc voilà. Pour répondre, je pense que c'est un métier qui n'a pas de définition réelle. Par contre, il y a une chose dans laquelle je me bats, c'est que je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un fourre-tout. Ça, quand tu parles des petits, on va parler des petits et des professionnels. Aujourd'hui, beaucoup de gens entraînent des petits, des fois, sans savoir hein, ce qu'ils font. Mais pour moi, ça c'est grave. Et des fois, on voit un peu tout et n'importe quoi, mais il n'est pas fait pour tout le monde, ce métier. Mais bien sûr qu'on peut y aller. Mais je pense qu'à un certain niveau, il n'est pas fait pour tout le monde et même avec des classes d'âge aussi, il faut être très prudent et faire attention et se former donc constamment.